Je vais vous parler aujourd'hui d'astronomie, mais pas d'astronomie actuelle, le genre de truc sur lequel je passe mes journées. Je vais vous parler plutôt de ce qu'on faisait dans le temps, de ce qu'on faisait sans télescope. Donc la majorité des observations dont je vais vous parler ici, vous allez pouvoir les faire à l'œil nu également. D'accord? Donc c'est des choses, je vais dire, relativement faciles à voir. Parfois, il faut être patient. Alors, on va faire tout un énorme voyage, mais j'aimerais que vous gardiez deux choses à l'esprit. Alors la première, c'est que l'astronomie, c'est une science très ancienne, et il y en a des optimistes, hein, comme Anaxagore, qui disait que le but de la vie, c'est l'étude du Soleil, de la Lune et des cieux. Bon, en tout cas pour certains, c'est sûr, c'est pas pour tous, mais bon, voilà, ça montre que ça a été très important un peu partout dans le monde. Et la deuxième chose que j'aimerais que vous gardiez vraiment en tête, c'est cette citation de Voltaire: « Juge un homme par ses questions, pas par ses réponses. » Parce que vous allez voir, on va se balader, voir un peu les approches des différentes parties du monde au niveau de l'astronomie. Certaines choses vont vous paraître complètement folkloriques, mais l'important n'est pas tellement la réponse qui est apportée, mais la question qui a été posée et qui est généralement extrêmement intéressante. Ok, alors quand on va parler d'astronomie, au fil du temps, vont se développer plusieurs approches. Je vais parler des deux. La première, c'est l'approche mythologique, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit du monde, je dis bien quel que soit l'endroit, hein, c'est vraiment universel, le panthéon divin comprend des dieux importants, souvent les dieux principaux, qui sont associés à des objets célestes, typiquement le soleil, la lune, le ciel de manière générale, ou parfois des planètes ou des étoiles importantes. On peut quand même se poser la question de pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que partout on retrouve des dieux célestes et que ces dieux célestes sont les plus importants? Alors on peut y trouver plusieurs raisons. La première raison, je dirais, et on va le voir dans la suite, c'est que le ciel, c'est utile. Ça va fournir des bases du savoir dans beaucoup de domaines. Ceci dit, une fourchette, c'est utile, c'est pas pour ça qu'on en fait un dieu, hein. Il y a d'autres aspects, par contre, qui montrent que les cieux, c'est plus que nous. D'abord, parce que le soleil, par exemple, se lève tous les jours. Alors, je suis désolée de vous l'apprendre, mais un jour, vous ne vous lèverez plus. Il y a donc derrière une idée d'immortalité associée aux objets célestes qui clairement en font des êtres supérieurs à nous. Autre chose, et ça on le sait depuis très très longtemps, faire de la lumière, c'est pas facile. C'est quelque chose de compliqué. Or, ces machins-là font de la lumière naturellement sans se poser de questions. Ils sont donc extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que nous. Et donc forcément, c'est assez logique là aussi de les associer avec des dieux. Et puis la dernière chose, c'est une idée d'ordre naturel qu'on retrouve là aussi dans beaucoup de civilisations, le fait que les astres sont au-dessus et que ben voilà, les choses sont bien faites, hein, la hiérarchie est bien faite, ce qui est au-dessus est supérieur, et donc forcément ben, ils sont au-dessus, donc c'est des dieux et pas nous, quoi. Ok, donc vous allez retrouver comme ça pour tout un ensemble de raisons des objets célestes. Et alors il n'y a pas seulement le fait que on retrouve ces dieux. Leur sont associées des histoires qu'on appelle les mythes, et ces mythes peuvent avoir un intérêt au-delà de l'intérêt historique, je vais dire, ou ethnologique. Les mythes en astronomie vont avoir des choses intéressantes derrière eux, notamment le fait qu'ils vont rapporter des observations. Vous aurez des exemples après, ne vous inquiétez pas. Et la chose qui est aussi la suite, c'est qu'ils vont essayer de tenter d'observer, tenter d'expliquer ces observations. Alors c'est là évidemment qu'on va s'écarter d'une approche scientifique, les explications vont parfois être un petit peu folkloriques, mais généralement elles rappellent simplement des règles de vie en société. Et elles expliquent que les dieux font comme ça et que donc vous aussi vous devez faire comme ça. D'accord? Donc c'est une idée d'ordre naturel, d'ordre cosmique, c'est simplement pour rappeler les règles du vivre ensemble. Alors, je vais surtout me focaliser sur l'approche plutôt scientifique, évidemment, même si je vous parlerai des mythes un peu régulièrement. Mais donc, cette approche scientifique, c'est que le ciel est une source de savoir pour beaucoup de choses. Tout d'abord, ça va permettre de définir des repères dans le temps, le jour, le mois, l'année, tout ça a été défini à partir de l'astronomie, mais également des repères dans l'espace pour les points cardinaux, et évidemment, ça va permettre aussi de se déplacer dans l'espace. L'astronomie a joué pendant très longtemps un rôle important là-dessus. Et donc, on a des astronomes anciens qui vont observer qui vont mesurer et qui, dans certains cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, qui vont modéliser les phénomènes célestes. Et on assiste comme ça, petit à petit, aux premières démarches scientifiques. Alors, je vous ai dit, on va parler ici de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel ?
Les étoiles.
Les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ?
La lune.
Les nuages. Oui, mais non. On va oublier les nuages. Hein, on va oublier les nuages, les méchants nuages. On va se concentrer sur les objets. Vous avez oublié le principal, quand même.
Le soleil.
Le soleil. OK. Donc, nous avons bien sûr le soleil, la lune et les planètes. Alors, il faut savoir qu'au sens antique, les planètes, ce sont des astres qui bougent et le soleil et la lune en font partie. Alors, ça paraît bizarre à l'heure actuelle parce que ce sont des objets complètement différents, mais au sens antique, on reprend tout. Donc, le soleil, la lune et les planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis, bien sûr, évidemment, les étoiles et leur groupement, les constellations. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça petit à petit, de ce qu'on en a fait, en commençant par les deux principaux, le soleil et la lune. Alors, bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je vous dis que le soleil se lève et que le soleil se couche et que cela permet de définir le jour. Première unité de base, hein, facile, celle-là, vous la connaissez bien. Le soleil se lève côté est, j'insiste sur le côté, j'y reviendrai, culmine, en tout cas dans l'hémisphère nord, culmine au sud, et se couche côté ouest. Ça permet là aussi de jouer sur la journée. Jusque-là, vous connaissez bien. Maintenant, si vous avez été un petit peu attentif chez vous et que vous avez regardé un petit peu, regardez le petit chat, hein, il regarde le soleil se lever, au fil des jours, le soleil ne se lève pas toujours au même endroit. Alors, pour le moment, on est à l'équinoxe, donc on a le soleil, pas de bol, qui se lève pile à l'est. Mais il n'y a que deux jours pendant lesquels il se lève pile à l'est. C'est l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. C'est les deux seuls jours où il se lève à l'est. Donc, c'est important de dire que le soleil ne se lève pas à l'est, mais il se lève côté ouest, parce que le reste du temps, il va se balader sur l'horizon. Il va se balader sur l'horizon, il va également se balader évidemment là où il va se coucher, hein, c'est pareil, hein, il va, là aussi il va pas toujours se coucher à l'ouest, et il va également se trouver à différentes hauteurs, je suppose que vous avez déjà vu, hein, en hiver le soleil très bas, en été le soleil plus haut, tout ça forme un ensemble, et pour retrouver le soleil aussi haut, eh ben, il faut attendre un an, pour retrouver le soleil aussi bas, il faut attendre un an, c'est comme ça qu'on définit l'année par rapport au point de lever ou de coucher, par rapport à la hauteur, par rapport à l'horizon, avec évidemment quatre dates particulières, hein, que vous connaissez tous certainement, le 21 mars et le 23 septembre pour les équinoxes, le 21 juin, le 21 décembre pour les deux solstices. Alors, petit interro, voici le ciel, l'ensemble du ciel, avec les points cardinaux que je ne vous mets pas, essayez de me trouver, donc vous voyez le passage du soleil à trois moments différents, essayez de me trouver à quel moment de l'année est-ce que ça correspond. Prenons celui-ci. À votre avis, il correspond à quoi ? L'hiver. Ici ? Printemps-automne. Et celui-là ? Ça va ? Je ne dois pas me fatiguer beaucoup, vous avez bien compris. Donc voilà, typiquement ce qu'on a sous nos latitudes, vous voyez que l'excursion dans les positions de lever et de coucher est quand même assez importante, hein. Alors, je ne vais pas revenir sur la raison des saisons. La raison des saisons, elle est très simple. La raison des saisons, c'est simplement parce que la Terre est inclinée et qu'elle se balade autour du Soleil en gardant cette inclinaison. Ça n'a rien à voir avec la distance entre la Terre et le Soleil. Je vais vous dire quand on est le plus près du soleil, parce que c'est vrai que on n'est pas parfaitement un cercle. Il y a un moment où on est un petit peu plus près. On est au plus près le 4 janvier. Aux dernières nouvelles, le 4 janvier, il ne fait pas super chaud, d'accord ? Donc, la distance Terre-Soleil, rien à voir avec les saisons. Simplement une question d'inclinaison et d'inclinaison des rayons par rapport au point juste au-dessus de nos têtes, hein, c'est le zénith. Quand on est près du zénith, enfin, quand le soleil est le plus près du zénith, ben, la journée va être très longue, le soleil est très haut dans le ciel, et au contraire, en hiver, ben, le soleil est bas sur l'horizon, les journées vont être courtes. C'est simplement ça, c'est une question d'inclinaison entre les deux. Alors, l'autre astre, c'est la Lune. La Lune qui a évidemment une particularité, c'est qu'elle change de tête. Elle change de tête au fil du temps, et ça, ça a permis de définir le mois. Donc vous aviez le jour et l'année par le soleil, et le mois, tout simplement à cause de la lune. Alors, je vais revenir ici avec quelques petites histoires. Alors, prenons par exemple la mythologie, les phases de la Lune, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Je vous disais, les mythes vont permettre de rapporter des observations, et par exemple, un des cas, c'est les phases de la Lune. Raconter que la Lune a des phases, c'est une observation, simple peut-être, mais c'est une observation quand même. Et évidemment, il va falloir les expliquer. Alors, il y a plusieurs possibilités d'explication. J'ai d'abord raconté l'histoire de l'Inde. L'Inde, en fait, le dieu lune, ben oui, parce que on dit le soleil et la lune chez nous, mais en fait, suivant les pays, les sexes sont inversés. C'est assez particulier, et il se fait qu'en Inde, la lune est un homme. Donc, c'est le lune. D'accord. Donc, Monsieur Lune se baladait dans la nuit, et il s'embêtait très fort, parce que pendant la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Il s'ennuyait beaucoup et les dieux se sont dit « Oh ben, c'est pas grave, on va lui donner des épouses. » Et il y avait un des dieux qui avait 28 filles. Et il a marié les 28 filles au dieu Lune. Alors il les a mis, je vais dire, tout autour de son parcours, comme ça il pouvait passer de l'une à l'autre bien gentiment. Sauf que, pas de bol, Monsieur Lune préférait une des filles, Rohini la Rouge, qui correspond en fait à l'étoile Aldébaran. Et du coup, il passait plus de temps avec elle. Et les 27 autres étaient forcément extrêmement jalouses. Et donc, elles se sont plaintes à leur père. Le père qui a convoqué son beau-fils, qui ne voulait pas entendre raison, il a dit « Si c'est comme ça, tu vas maigrir. » Et la lune a commencé à rétrécir, à rétrécir, à rétrécir, à rétrécir, à rétrécir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tout fin croissant, et que là, les autres dieux disent « Oui, mais attends, on a quand même besoin de la lune. » Donc, cette idée, c'est pas génial, génial, on va essayer de trouver un compromis. Le dieu Lune a cédé, il a dit « Bon, je vais m'occuper de toutes mes épouses. Hein. » Mais son beau-père, quand même un petit peu méfiant, lui a dit « Bon, ok, mais tous les mois, tu maigriras. » Et donc, tous les mois, il maigrit au moins un petit peu pour être sûr qu'il se souvienne de la leçon qu'il a reçue. Alors, vous voyez l'observation, hein, observation, c'est les phases de la Lune, et vous voyez la morale qui est derrière, c'est que quand on a un certain nombre d'épouses, il faut les traiter toutes de manière égale. D'accord ? Donc vous avez les deux, hein, les observations et l'histoire derrière. Alors, le nombre 28 n'a pas été choisi au hasard. Il se fait que la période sidérale de la Lune, donc le trajet, le temps que met la Lune pour faire un trajet par rapport aux étoiles, c'est un peu plus de 27 jours. Et donc les 28 épouses correspondent en fait au temps que met la Lune pour faire un tour par rapport aux étoiles. Donc c'est pas du tout choisi au hasard, on n'a pas mis deux ou trois, c'est vraiment très bien choisi. Alors, on peut trouver d'autres histoires ailleurs, comme par exemple au Gabon, une histoire vraiment très très bien. Là, le dieu Lune n'avait que deux épouses. Il y en avait une qui était très jolie, et il y en avait une autre qui n'était pas jolie, mais qui était super bonne cuisinière. Alors forcément, au départ, qu'est-ce qu'il fait ? Le dieu Lune, ben, il va voir la jolie. Mais bon, au bout de quelques semaines, il a faim. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il change d'épouse, et il va voir l'épouse qui est bonne cuisinière, et du coup, il reprend un petit peu de l'embonpoint. Et puis comme ça, il alterne de l'une et de l'autre. Morale de l'histoire, si vous avez deux épouses, c'est peut-être pas la plus jolie qui est toujours la plus intéressante. Vous aurez remarqué aussi que la Lune n'est pas parfaitement lisse. Quand on regarde la Lune, on voit clairement qu'il y a des taches sur la Lune. Alors les taches sur la Lune, là aussi, on essaie de les expliquer par des histoires. Et il y a une histoire qui est très intéressante. C'est une histoire qui nous vient de la région du Zambèze, où vous avez en fait le dieu Lune qui était jaloux du soleil, parce que le soleil avait des plumes flamboyantes, qui faisait briller très fort, et donc un jour, le dieu Lune, pendant que le soleil dormait, essayait de s'approcher tout doucement pour lui piquer une de ses plumes brillantes, mais pas de bol, le soleil l'a vu. Et qu'est-ce que le soleil a fait ? Il a pris de la boue qu'il y avait par terre et paf, dans la tête du dieu Lune, qui s'est retrouvé avec des taches. Alors, vous avez ici, forcément, hein, l'explication, mais ce qui est bien, c'est que l'histoire continue. L'histoire continue en disant que tous les 11 ans, la vigilance du soleil diminue et la lune en profite pour se venger en jetant un peu de sable à la tête du soleil. Or, il se fait que le soleil a un cycle de 11 ans et que tous les 11 ans, il y a effectivement des taches solaires qui apparaissent sur la tête de la Lune en grand nombre. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez ici une région où il n'y a pas d'astronomie très organisée, finalement. Hein. Vous n'avez pas de grands observatoires comparés à la Chine à la même époque ou des choses comme ça. Mais eux vont pouvoir voir ces taches solaires et, pire que ça, déterminer ce cycle de 11 ans que même des astronomes chinois ou mésopotamiens n'ont pas réussi à faire. Donc, même des régions qui, a priori, vous dites ne sont pas intéressantes, elles le sont quand même, et vous voyez simplement par une petite histoire, on apprend quand même pas mal sur les dons d'observation de nos ancêtres de partout dans le monde. Alors cette lune qui sert évidemment pour faire le mois, ben, évidemment ça a été beaucoup utilisé pour les calendriers, et on retrouve les premiers calendriers sur base justement lunaire. Alors les plus anciens calendriers, alors là c'est une question extrêmement débattue, mais disons que les plus anciens qui ont été annoncés, hein, reste à savoir si c'est certains, c'est tout d'abord un os qui a été gravé. Vous voyez ici l'os en question et vous voyez un zoom agrandi avec les dessins qui sont refaits. Vous voyez que les petits points changent de forme. On pense que ça correspond à un calendrier lunaire. Ça date de 30 000 ans. Donc c'est quand même assez ancien. Et puis vous avez à côté des peintures de Lascaux avec des points. Et certains ont interprété ces points comme étant justement un calendrier primitif. Ce qui est sûr, c'est que à la période historique, donc au partir du moment où on a l'écriture, les premiers calendriers utilisent généralement la Lune. Certains restent basés sur la Lune. Le calendrier islamique est toujours basé sur la Lune. Alors, cette face changeante de la Lune, bon, à l'heure actuelle, évidemment, on sait à quoi c'est dû. On sait que, tout simplement, c'est dû au fait que la Lune, elle tourne autour de la Terre, mais qu'il y a une seule lampe dans tout le système solaire, c'est le Soleil, qui éclaire la Terre, mais également la Lune. Alors forcément, s'il éclaire par ici, ben, il éclaire que cette partie-là, l'autre côté, il est dans l'ombre, et si vous êtes sur Terre, vous allez voir une moitié de la Lune éclairée. Et suivant l'endroit où se trouve la Lune par rapport à la Terre, vous allez tout voir, ou voir un tout petit bout, ou ne rien voir du tout si malheureusement vous voyez l'arrière qui n'est pas éclairé. Maintenant, ça sera les deux minutes compliquées de cette conférence. Je vous ai dit que le soleil, et vous m'avez dit oui, parce que vous l'avez certainement observé, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas au même endroit au cours de l'année. Il se fait que la lune fait la même chose. Mais généralement, vous n'en avez pas vraiment l'intuition. Vous ne l'avez pas souvent observé. Alors, pour simplifier, on va regarder la pleine lune. Alors, la pleine lune, par rapport, donc vous avez la Terre, vous avez le soleil, ben, la pleine lune, elle est à l'opposé, hein, d'accord ? La Terre, le Soleil, donc forcément la pleine Lune à l'opposé. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est où se trouve la Lune par rapport au Soleil. Donc vous avez la Terre qui est ici, qui est inclinée, hein, inclinée de 23,5 degrés sur son orbite autour du Soleil, et la Lune, elle, a une orbite qui est inclinée de 5 degrés. Alors regardez ici, le Soleil, qu'est-ce qu'il fait ? 23,5 degrés en plus au-dessus de l'équateur, puisque ça c'est la ligne de l'équateur, au-dessus de l'équateur en été. Et la Lune pendant ce temps-là, elle est à moins 23,5 degrés, moins 5, donc moins 18 degrés. Donc, en été, la Lune, elle a ici un angle négatif qui est quasiment le même, mais pas encore aussi extrême que celui du Soleil en hiver. Donc voilà le trajet, vous voyez ici le trajet du Soleil en hiver, le trajet du Soleil en été, on est ici en été, donc le soleil est bien là, et la lune, elle n'est pas loin du trajet du soleil en hiver. Inversement, si je regarde en hiver, j'ai le soleil qui est bas sur l'horizon, hein, voilà, et la lune, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est à plus 23,5 degrés, moins 5, donc plus 18,5 degrés. Elle n'est pas aussi extrême que le soleil, mais presque. D'accord ? Donc en hiver, le soleil est bas, la pleine lune est haute. En été, c'est le contraire. Le soleil est haut, la pleine lune est basse. Mais il se fait que l'orbite de la lune bouge. Elle tourne. Et il y a, vous en doutez, point d'arrêt mineur, il y a forcément un point d'arrêt majeur. Quand l'orbite de la lune a changé un petit peu, elle fait toujours 5 degrés, mais elle fait 5 degrés dans l'autre sens. Regardez. Vous voyez ? elle fait 5 degrés dans l'autre sens. Ce qui fait que, au lieu de faire moins 21 degrés et demi et puis de reculer, ben donc vous avancez. Donc vous allez plus loin que le soleil. Vous êtes plus extrême que le soleil. Donc, en été, le soleil se balade ici et la lune va être encore plus basse sur l'horizon que le soleil d'hiver. Et en hiver, la lune va aller au-delà du trajet du soleil en été. Je vais résumer ça. On va prendre le soleil, hein, le trajet du soleil par rapport à l'horizon. Le soleil en été se lève au nord-est, se couche au nord-ouest. Il se lève au sud-est en hiver, se couche au sud-ouest. Il faut un an pour faire un aller-retour. Ça va. La lune, eh bien, en hiver, elle va se trouver quelque part, pas loin de la position du soleil en été, et en été, pas loin de la position du soleil en hiver. Et pour faire un aller-retour entre les deux positions, il faut plus de 18 ans. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, figurez-vous que ces positions extrêmes du soleil et de la lune, on peut les repérer. Exemple classique que je vais vous montrer dans quelques instants, vous prenez des pierres. Vous les alignez, ça vous fait une direction. D'accord ? Et on a remarqué que dans ces alignements de pierres, on arrivait à repérer le soleil. Alors repérer le soleil, bon, soyons clairs, si vous avez un nuage au mauvais moment, oui, ça arrive souvent quand même, hein, chez vous comme chez nous, hein. Bon, c'est pas grave, vous attendez un an, vous le refaites. Je veux dire, allez, si c'est 2 ans ou c'est nuageux, vous attendez une troisième année. C'est pas si grave que ça. Sur 10 ans, au pire, vous avez votre truc. Pour la Lune, si vous le ratez, vous êtes parti pour presque 19 ans. Alors ici, on est en train de parler d'hommes préhistoriques qui ont fait ce genre de choses. Donc pour repérer des extrêmes de la Lune, il faut non seulement une société organisée, mais qui se passe les observations de génération en génération et qui a comme projet véritablement d'observer ce genre de choses. D'accord ? Donc on n'est pas sur « Ah oui, tiens, je regarde vaguement le machin ». Non, non, là on est dans la mesure précise. Okay ? Alors, repérer ces extrêmes, je vais vous donner quelques exemples. Alors, quelques exemples chez nous au sens large, donc dans la partie occidentale. Le plus ancien, c'est Newgrange. C'est une tombe qui se trouve sous un tumulus, en fait. Ça se trouve en Irlande. Ça date de plus de 5000 ans. Hein. Donc, c'est quand même pas tout jeune. C'est une période préhistorique pour l'Irlande, donc on a des hommes ici du néolithique. C'est un passage, un couloir qui fait 19 mètres de long et qui se termine par une espèce de trèfle comme ça, qui est l'endroit où on qui sert de cimetière, on va dire. Vous remarquez que ce passage n'est pas droit, il est un petit peu sur le quinquin, comme on dit chez moi, hein, donc un petit peu bas gauche, un petit peu à droite. Et vous remarquez aussi qu'en coupe, il n'est pas droit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il monte un peu. D'accord ? Et l'entrée est bouchée par une pierre couchée. Et il y a juste au-dessus une espèce de petite ouverture. Et par cette ouverture-là, une fois par an, lors des couchers de soleil au solstice d'hiver, les rayons solaires passent et viennent illuminer le fond de la tombe. Et uniquement à cette date-là. Alors, évidemment, ils n'ont pas laissé d'écrit, donc on ne peut pas savoir ce qu'ils voulaient faire. L'interprétation ethnographique, c'est que le soleil au solstice d'hiver est au plus bas. Il ne peut que remonter. Quelque part, il y a une idée de renaissance qui se cache derrière. Et donc, l'idée probable qui était derrière ça, c'est d'emporter les âmes des morts avec eux pour les faire renaître dans un au-delà qu'ils avaient imaginé à cette époque. Évidemment, je ne peux pas passer sur le cas de Stonehenge, qui est le cas emblématique de tous ces monuments mégalithiques. Alors, il faut savoir que Stonehenge, il n'y a pas un Stonehenge, il y a des Stonehenge. Et c'est un monument qui s'est construit entre 2900 et 1500 avant notre ère. Vous imaginez même les cathédrales que l'on a construites pendant des siècles. Eh bien, entre le début et la fin, il n'y avait pas 1400 ans. Vous imaginez ici, dire qu'il n'y a qu'un seul Stonehenge, c'est complètement idiot, parce que sur 1400 ans, il s'est passé plein de choses. Et au début, Stonehenge était quelque chose de très simple, des talus de pierre avec des trous, 56 trous. Puis, on a petit à petit rajouté des pierres, on a creusé une avenue et remis donc des pierres un peu à gauche et à droite. Alors, dans les 56 trous, il y en a 4 qu'on appelle les pierres stations, qu'on a mis en évidence. Et tout ça s'est construit, je vous dis, sur 1400 ans. Donc c'est vraiment un monument qui a pris du temps. Et malheureusement, évidemment, bon, vu que c'est un monument très ancien, il n'en reste pas des masses aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble le site aujourd'hui. Vous avez ici le début de l'avenue qui est joyeusement partagé par la route qu'on a creusée en plein milieu. Et vous avez ici le passage pour les touristes qui, évidemment, vous remarquerez, passe en plein milieu de tout, hein. Ici, les pierres, dont certaines ont été remontées parce qu'elles étaient couchées. Dans les pierres stations, vous en avez une ici, une là. Et puis, si vous remarquez bien, il y en a une ici. Le passage passe allègrement dessus. Hein. Et vous avez ici le début de l'avenue avec la pierre du sacrifice qui est tombée et qu'on n'a pas remontée. Alors, vous avez certainement vu aux alentours du 21 juin des guignols habillés, enfin ça passe chaque année à la télé, hein, des guignols habillés en panoramix qui vont joyeusement sur le monument et qui voient deux, trois petites danses, et le soleil se lève dans l'axe du monument. Alors, il est vrai que le soleil se lève dans l'axe du monument le 21 juin, ça c'est sûr. Maintenant, les gars habillés en panoramix, c'est bien gentil, mais panoramix, astérix et tout le bazar, ce sont des celtes. C'est pas les hommes du néolithique. Ils n'ont absolument jamais construit de menhir, désolé pour Obélix. Ils n'ont jamais construit de menhir, ils n'ont jamais construit de monuments qui sont ceux qu'on connaît. Ils les ont réutilisés, ça c'est vrai. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que ces machins étaient là, ils les ont réutilisés comme centre cérémoniel, en supposant qu'ils servaient à ceci ou à cela, mais ils ne les ont pas construits. Ce sont des monuments qui sont plus anciens. D'accord. Donc, c'est bien joli pour le folklore, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, on a raconté beaucoup de choses sur Stonehenge, mais ce qui est vrai, donc, c'est que l'axe principal du monument, donc, c'est il regarde le lever de soleil au solstice d'été. Il existe d'autres lignes. Alors, vous voyez ces lignes rouges, c'est tout ce qui est lié au soleil. Les lignes vertes, et c'est là que ça devient amusant, c'est lié à la lune. Vous remarquerez qu'on a remis en exergue ici les 4 pierres stations, et que quand on lit ces 4 pierres stations, eh bien, on a la position, donc le coucher de lune le plus au nord, et dans l'autre sens, le lever de lune le plus au sud. Alors, bon, soyons clairs aussi, vous prenez 3 petits cailloux dans votre main, vous les lancez comme ça, il y a une chance non négligeable que ces cailloux finissent par montrer la direction de quelque chose. L'ourthe, la Mecque, le lever de soleil ou d'une étoile quelconque, vous arriverez bien à trouver quelque chose. Conclusion, regardez un monument, c'est bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt regarder l'ensemble des monuments, qui a une communauté d'idées. Donc, par exemple, prenons les hommes du néolithique de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, de la Petite-Bretagne, de l'Irlande, tout ça, on sait qu'il y avait une communauté, il y avait beaucoup de commerce et tout, enfin bon, c'est la même civilisation, quoi. Donc cela, on peut les regarder et voir si, statistiquement, il y a des directions qui ressortent. Alors ça, ça a commencé à être fait dans les années 60 et 70 par un ingénieur qui s'appelait Alexander Thom et son fils. Ils étaient extrêmement enthousiastes. Un tout petit rien trop, parce que, par exemple, à Karnak, disons qu'ils voulaient bien avoir une certaine direction et qu'il y avait 2-3 trucs qui n'étaient pas dans la bonne direction. Ils les ont relevés et remis un peu comme il fallait. Alors, dans les années 80, les choses ont été refaites. Alors, on arrive à des précisions qui sont moins élevées, mais on a refait la même chose et on arrive au même résultat. Alors, les résultats sont sous forme graphique et c'est un petit peu compliqué, d'accord, mais je vais vous expliquer. Vous avez ici tout ce qui est... La ligne plate, ça veut dire il n'y a rien dans aucune direction. Si on s'éloigne de la ligne plate vers le dessus, c'est qu'il y a des monuments qui sont orientés vers le lever d'un objet. Et si c'est vers le bas, c'est orienté vers le coucher. Et vous avez, pour vous y retrouver, les positions du soleil... Ici, solstice d'hiver, Vous avez le solstice d'été, vous avez les équinoxes, vous avez les points à mi-chemin entre les solstices et les équinoxes. Ça va vous rappeler des choses, la Toussaint, la Chandeleur. Ce sont des fêtes qui existaient déjà chez les Celtes. Hein. Elles ont été récupérées quand on a été évangélisé. Et même avant, les Celtes existaient également au Néolithique. Hein. Donc ce sont des points qui sont utiles. Et puis en gris, là, c'est la Lune. C'est les points extrêmes de la Lune. Donc vous voyez que vous avez ici, par exemple, des monuments qui sont orientés vers le coucher, donc coucher de la Lune. Solstice d'hiver, vous avez autant lever ou coucher de soleil, il y en a beaucoup. Ici aussi, vous en avez un certain nombre. Oh, ici aussi, vous en avez un certain nombre, solstice d'été aussi. Et puis là, vous avez un magnifique pic. Mais il est beau. C'est un des plus significatifs. On ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais trouvé, on a tout essayé, la supernova, le machin de planète quelconque. Enfin, on a tout essayé, on n'a rien trouvé. L'explication qui semble aujourd'hui la plus probable, c'est que tout simplement, il s'agit d'un artefact mathématique. Parce que si, ici, c'est un... Les degrés que vous voyez, c'est sur l'équateur céleste, qui est une projection de notre équateur terrestre, mais l'horizon n'est pas l'équateur. Il y a un angle entre les deux, et bon, mathématiquement, il y a deux, trois petits problèmes quand on transforme l'un à l'autre, et notamment des accumulations peuvent apparaître. Donc on pense que c'est ce qui se passe là-dessus. Pas de bol, le seul monument mégalithique qui subsiste en Belgique, il est pile là-dedans. Alors, pour vous dire que les mégalithes, c'est bon, on connaît très bien de ce côté-ci du monde, mais c'est quelque chose qui existe partout. Le repérage des extrêmes, on retrouve ça ailleurs. Vous avez ici un magnifique monument qui se trouve au Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique. Ça a été construit par les Anasazis. C'est une peuplade indienne qui a eu sa culmination au Xe-XIe siècle, qui est très raffinée au niveau poterie, etc. On ne connaît pas leur vrai nom. Anasazis, ça veut dire ancien en Navajo. C'est le nom que les Navajos ont donné à la population qui était là quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu qu'il y avait des maisons et des choses comme ça. Ils ont dit, les anciens étaient là avant nous. Mais on ne connaît pas, on ne sait pas très bien, c'est une civilisation un peu particulière. Et vous allez me dire, où est le monument? Alors, regardez bien. Les machins que vous avez ici, ils sont pas de la même couleur que la falaise. Ces trucs-là, qui ont l'air d'être mis n'importe comment, ils viennent d'une carrière qui a plusieurs kilomètres. Ils ont été amenés jusque-là. Et vous allez me dire, ils ont mis au pof, comme ça, n'importe comment. Pas du tout. Derrière, sur la falaise, il y a une spirale très grande qui est gravée. Et lorsque vous êtes au solstice d'été, le soleil passe par les fameux trous qui n'ont l'air de rien et viennent faire une dague solaire qui coupe la spirale pile au milieu. Au solstice d'hiver, en décembre, vous avez deux dagues solaires qui encadrent la spirale. Et aux équinoxes, la grande spirale, il se passe rien, mais il y a une petite spirale à côté qui est coupée en deux. Les Amérindiens ont beaucoup utilisé ce phénomène de dague solaire. Alors, on n'est pas ici dans un monument gigantesque, hein. C'est un monument beaucoup plus petit, probablement pour simplement une personne à y voir quel moment de l'année on est. Mais ils ont repéré les extrêmes également, et de manière finalement assez sophistiquée, parce que pour aller mettre les pierres sans vraiment les sculpter sur un angle bien droit, etc., hein, pour arriver à faire ça, il fallait pas mal d'adresse. Alors, on retrouve également ce genre de monument en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors, un exemple assez classique, ce sont les pyramides mayas, notamment celle d'Ouaxactun. Le temple E est composé d'un temple principal et de trois petits temples. Et vous voyez ici, hein, le soleil se lève à différents endroits en fonction du moment de l'année. Alors ici, on est dans un monument très différent. C'est un monument d'exposition. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le chef de la cité maya qui vient se mettre ici sur la pyramide avant le lever du soleil et qui ordonne au soleil de se lever à l'endroit où il faut. Et évidemment, entre-temps, vous avez amassé la populace en bas, hein, qui voit que le soleil répond à l'ordre de son empereur, n'est-ce pas ? Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'évidemment, il y avait l'astronome, donc le prêtre du temple, qui était là, qui avait prévenu l'empereur que c'était aujourd'hui qu'il fallait faire la cérémonie, et pas demain. Mais bon, donc ce genre de monument, on retrouve ça à quelques endroits chez les Mayas. On a également au Machu Picchu un des rares monuments qui n'est pas droit, parce qu'au Machu Picchu, c'est souvent des trucs un peu rectangulaires, mais il y en a un qui est rond, que les Espagnols ont appelé le Torreón, et qui est aligné astronomiquement. Alors, de manière assez comique, en fait, il y a des petites, dans les fenêtres, il y a des petits crochets où vous pouvez faire pendre un fil à plomb. Et alors, à certains moments de l'année, de nouveau, équinoxe et solstice, vous avez l'ombre du fil à plomb qui vient se mettre le long de la pierre qui est la pierre du Machu Picchu, la pierre de la montagne, mais évidemment, pierre qui a été taillée parfaitement, et l'alignement ne se fait que ici, ce cas-ci, c'est pour le solstice d'été, mais il ne se fait qu'à ce moment-là. Alors, il y a aussi des cas plus pratiques. Les Incas avaient à leur capitale, Cusco, des piliers qu'on voyait de la ville, et il suffisait au matin, quand vous vous leviez, de regarder les piliers en question, et vous regardiez où le soleil se levait. S'il se levait au niveau du premier pilier, alors il fallait aller planter en altitude, plus haut que Cusco. Si le soleil se levait entre les deux piliers du milieu, vous plantiez autour de Cusco, et si le soleil se levait plus bas que le dernier pilier, vous plantiez en bas dans les vallées. Donc c'est un indicateur agricole, c'est très facile pour les ouvriers agricoles qui étaient dans la ville. Ils sortaient, ils savaient où ils devaient aller, quoi. Dernière chose dans les alignements, il y a toute la question de la Polynésie. C'est une question qui n'est pas simple, on en reparlera. Et l'île de Pâques, qui fait partie de cette Polynésie, c'est un truc un peu comme Stonehenge, hein, il y a toujours beaucoup de fantasmes autour. Et on peut se poser un peu des questions, est-ce que ces trucs-là sont mis au hasard? Alors évidemment, ces trucs-là, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est ces machins-là, ces statues-là, qu'on appelle des moai. Mais les moai ne sont pas aussi intéressants que le machin qui n'a l'air de rien, qui est en dessous, qu'on appelle un ahu, et qui forme la partie pratique. Alors on sait depuis très longtemps que ces moai sont en fait le dos à la mer. Et quasiment partout sur l'île de Pâques, ils sont simplement dos à la mer. Sauf quelques-uns qui ne sont pas au bord de mer, et qui là, en utilisant notamment les volcans qui se trouvent un petit peu plus loin, vous pouvez faire comme ça des lignes de visée, certains ont des alignements avec le soleil. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est qu'en Polynésie, on n'est pas sûr qu'ils observaient vraiment le soleil, les extrêmes du soleil. Par contre, on est certain qu'ils observaient les étoiles. Problème, les extrêmes de lever du soleil correspondent aussi à des étoiles. Et donc, pour l'île de Pâques, on a un doute, en tout cas sur les alignements solaires, ça peut être des alignements avec les étoiles. Alors maintenant que, bon, on a repéré, hein, on a des trucs hyper précis et tout, on peut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est essayer de faire des modèles. Il existe deux civilisations qui ont fait des modèles extrêmement intéressants. La première de celles-ci, c'est la Mésopotamie. Alors la Mésopotamie faisait de la modélisation pour faire de l'astrologie. Alors, de l'astrologie d'État, hein, c'est pas de l'astrologie personnelle ici, leur idée était que certains événements, notamment les événements qui affectent l'État, donc la mort d'un empereur, des barbares qui arrivent de gauche ou de droite, tout ça est expliqué, les dieux préviennent. Or, les dieux, ce sont les planètes. Le dieu de la guerre, c'est Mars, chez eux aussi, hein. La planète Mars correspondait, la déesse de la beauté, c'est aussi Ishtar, c'est aussi Vénus. Hein, donc les planètes ont sont associées au même dieu. Et donc les dieux préviennent. Alors comment est-ce qu'ils préviennent? En faisant quelque chose dans le ciel. À demi-tour, ils sont plus brillants, enfin, quelque chose, quoi. Ils envoient un message, ils préviennent. Et donc comme ils avaient repéré qu'il y a eu 2-3 événements comme ça qui s'étaient passés alors qu'il se passait quelque chose dans le ciel, ils ont commencé à avoir des temples dans lesquels vous aviez deux parties. Soyons clairs, même à cette époque-là, c'était bien séparé. Des astronomes qui mesuraient et qui faisaient des modèles, et de l'autre côté, des astrologues qui essayaient d'interpréter. Alors pourquoi faire des modèles? Tout simplement parce que si tous les 15 jours le dieu fait coucou, c'est plus un événement. D'accord? C'est un événement régulier, c'est normal. Il n'y a rien à repérer, il n'y a pas de message caché là-dedans. Donc, il fallait repérer les événements réguliers, d'où un besoin d'observation et de modélisation très important. Et les Mésopotamiens vont faire ça très bien, en faisant beaucoup de repérages, et en plus, en modélisant d'une façon très particulière, avec un seul mot d'ordre, qui est également le mot d'ordre que tous les scientifiques utilisent aujourd'hui. Vous modélisez comme vous voulez, mais il faut qu'à la fin, ce soit bon. bon dans le sens que ça prédise correctement ce qui se passe. Petits exemples. Ils vont modéliser avec des fonctions discontinues des fonctions zigzags. Alors, des fonctions discontinues des fonctions zigzags, ça veut dire quoi? Voilà, au lieu d'avoir une courbe compliquée, ils vont faire le calcul avec des constantes, en tout cas sur des morceaux ou des lignes. Très simple. Pourquoi faire ça? Mais par exemple, ils vont se dire, le soleil est à tel endroit du ciel pendant un mois. Ils savent bien que le soleil n'est pas un mois dans cet endroit-là du ciel. Pendant un mois, il bouge un petit peu. Mais en supposant qu'il est un mois dans cette partie-là du ciel, et puis qu'après un mois, il est juste à côté, etc., etc., ça simplifie les calculs. Et si la réponse est bonne? C'est que l'approximation était bonne. Donc, il ne fallait pas trop se compliquer. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on fait encore, nous, aujourd'hui, scientifiques. Quand on est face à un phénomène compliqué, on essaie de le simplifier au maximum. Et si, bah, finalement, en supposant constant sur telle partie, ça marche, ça marche. On est content. Ça, ça nous vient des Mésopotamiens. Alors, vous allez me dire, oui, mais les Grecs. J'ai dit qu'il y avait deux civilisations, la deuxième n'est pas les Grecs. Soyons clairs, les Grecs avaient des jolis petits modèles, avec des jolies petites sphères qui tournaient dans tous les sens, c'était mignon. Ça ne ressemblait pas du tout au ciel qu'on pouvait observer. Alors, évidemment, les modèles mathématiques, ici, étaient précis, mais ne correspondaient pas à la réalité, puisque, bon, une équation, ça ne donne pas une idée de la réalité, les trucs qui tournent, ça, géométriquement, c'est vrai que ça ressemble à ce qui se passe en réalité. Mais quelque part, on peut dire que c'est un hasard. D'accord? Le but des Grecs n'était pas de modéliser pour que ça ressemble. Mais il fallait que ça soit joli. Les Mésopotamiens ont quelque chose, ont une idée très différente au départ. Eux, ils se foutent de ce à quoi ça ressemble. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit précis. Alors, pour vous donner une idée de la précision, voilà un exemple pour les phases de la Lune. Donc ici, on cherche l'intervalle entre deux pleines lunes. Alors, évidemment, ça bouge un petit peu parce que l'orbite de la Terre n'est pas un cercle parfait, l'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait, donc c'est un petit peu tordu. Mais bon, la théorie moderne, c'est les petites croix. La théorie moderne, ça veut dire mécanique céleste, ordinateur, tout le bazar, hein. Et les Mésopotamiens vont faire deux composantes, ils vont calculer deux composantes facilement, et ils vont arriver en les sommant aux petits points noirs. Vous remarquerez que les petits points noirs et les petites croix, c'est pas si mal que ça. À l'époque, chez les Grecs, c'était la petite croix, elle est là, et le petit point noir, il est là, hein. D'accord? Donc on est ici dans une modélisation totalement différente, une modélisation qui est proche de ce qu'on veut voir. Alors, il y a d'autres événements dont ils vont s'occuper, notamment par exemple les éclipses. Les éclipses, ça c'est quelque chose évidemment de particulier, parce que surtout les éclipses solaires qui sont extrêmement impressionnants, le soleil disparaît, il fait nuit en plein jour. La lune, la pleine lune peut disparaître aussi lors d'une éclipse de lune, c'est évidemment des événements impressionnants. Généralement des événements négatifs, ou considérés comme négatifs. Alors, il y a un seul endroit où ils ne sont pas considérés comme étant négatifs, c'est en Australie, chez les aborigènes. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune, ce sont des époux, et que les éclipses, c'est le moment où les époux se retrouvent dans leur chambre, et qu'on ferme la porte. Et donc, pour eux, c'est pas du tout négatif, une éclipse. Vous remarquerez au passage, au-delà de l'aspect un petit peu rigolo, qu'ils avaient remarqué que c'était le soleil et la lune qui se rencontraient lors des éclipses. Alors, je vais vous raconter une autre petite histoire qui est relative à l'Inde, et vous verrez que les Indiens, eux, alors qu'ils sont quand même des astronomes pas mauvais, n'ont pas du tout réalisé cela. Donc, les aborigènes s'en sont rendus compte, mais pas les Indiens. Alors, en Inde, en fait, l'explication des éclipses, est assez particulière, c'est-à-dire qu'au départ, les dieux n'étaient pas immortels. Ils se sont creusés les méninges pour savoir comment devenir immortels, et ils se sont rendus compte que c'était pas compliqué, il suffisait de prendre l'Himalaya, hein. Oui, parce que bon, comme cuillère, il n'y avait pas mieux, donc vous prenez l'Himalaya, vous touillez dans l'océan, en sort une écume que vous récoltez et que vous buvez, et ça vous rend immortel. Seul petit problème, c'est que bon, prendre l'Himalaya et commencer à touiller, il fallait être beaucoup, et que les dieux n'étaient pas en force suffisante. Donc ils avaient besoin des démons, qui eux non plus n'étaient pas immortels, et donc ils se sont dit, bon écoutez, vous nous aidez, on partage. Évidemment, les dieux n'avaient aucune intention de partager. Et donc, une fois que ça marchait bien, qu'ils avaient commencé à récolter, qu'ils allaient commencer à séparer ce qu'ils avaient récolté, Vishnu s'est déguisé en très jolie jeune femme et a tiré bien joyeusement les petits démons sur le côté, qui ont tous suivi bien joyeusement. Et pendant ce temps-là, les dieux étaient en train de boire bien tranquillement pour être sûr que les démons n'en avaient pas. Il y a un démon qui s'est rendu compte du bazar, qui s'est déguisé en dieu et qui s'est mis dans la file. Et il y a deux dieux qui se sont rendus compte de l'affaire, le soleil et la lune. Alors ils ont été chercher Vishnu en vitesse, qui est revenu avec son grand sabre, et à ce moment-là, pas de bol, il était le dieu Rahu, hein, le démon qui s'était déguisé en dieu, était juste arrivé au bout de la file, on venait de lui donner le flacon, il était en train de le boire. Et Vishnu arrive et chouk, il lui coupe la tête. Pas de bol, il y avait une goutte qui avait touché sa langue. Sa tête était devenue immortelle. Et elle n'était pas contente. Et donc, elle se cache dans le ciel, et dès qu'elle voit passer le soleil ou la lune, vous remarquerez que ce n'est qu'une tête coupée. Il avale, ça repasse. Les éclipses ne durent jamais longtemps. Faut pas trop s'inquiéter. Alors, évidemment, il se met à un endroit particulier du ciel et le soleil et la lune y passent chacun à leur tour, à 15 jours d'intervalle, et ils les mangent tous les deux. Effectivement, les éclipses se produisent par groupe dans un endroit particulier du ciel qu'on appelle les nœuds et à 15 jours d'intervalle par groupe d'éclipses. Donc il y avait de l'idée, mais néanmoins, ils n'avaient pas compris le truc principal que les aborigènes avaient compris, qui était que le soleil et la lune se rencontraient. Ce qui est finalement assez amusant. Qui est la deuxième civilisation qui a fait de la modélisation précise? Ce sont les Mayas. Alors, les Mayas, civilisation amérindienne, Mexique, typiquement le Yucatan, et la période classique des Mayas, c'est de 250 à 900. Donc, les Espagnols, quand ils sont arrivés, n'ont pas rencontré de Mayas. D'accord, ils ont rencontré des Toltecs, des Mixtecs, des Aztecs, tout ce que vous voulez en tech, mais ils n'ont pas rencontré des Mayas, tout simplement parce qu'il n'y en avait plus. Ils s'étaient mélangés, mais la civilisation Maya était déjà finie à ce moment-là. Alors, les Mayas avaient une façon de compter qui est différente de nous, c'est-à-dire qu'ils ne comptaient pas par 10, mais ils comptaient par 20. Et c'est très facile. Le point, c'est 1. La barre, c'est 5. Et avec tout ça, vous faites les chiffres de 1 à 19. Et pour le 0, oui, parce que figurez-vous qu'il n'y a que deux civilisations qui ont inventé le 0 et que les Mayas sont l'un d'entre eux, ils représentaient un petit coquillage. Et donc, avec ça, vous pouvez compter, enfin, comme nous, quoi, hein, un système décimal, eux, c'est sur 20, mais c'est la même chose. Alors, ils avaient commencé à faire plein de choses, plein de calculs, tout ce qu'on veut. Évidemment, les Toltecs et tout ça n'avaient plus le savoir maya, mais ils avaient gardé les bouquins. Sauf que quand les Espagnols sont arrivés, notamment un certain évêque qui s'appelle Diego de Landa, il a récupéré tous les bouquins. Ouh, méchant, païen, tout ça, diabolique, qu'est-ce qu'on fait? Feu de joie! Et il a joyeusement, comme ça, brûlé tous les écrits mayas qu'il pouvait trouver. Vers la fin de sa vie, il s'est un petit peu amendé et il a essayé avec les anciens sur place de reconstruire les bribes de savoir qu'ils avaient. Le seul problème, c'est que c'était pas des Mayas. Donc, il n'a jamais eu le savoir de départ puisqu'il s'était perdu. On possède donc seulement 4 livres Mayas qu'on a retrouvés, qui ont échappé au bûcher un peu par hasard. Alors, il y a le codex, on les appelle des codex, hein. Il y en a un à Paris, il y en a un à Dresde, un à Madrid et un qu'on a présenté à New York au Club Grolier. 4, et tous les 4 parlent d'astronomie. Alors, on ne sait pas si c'est un hasard ou si c'est représentatif, évidemment, on en a 4, donc bon, c'est rien faire. Mais bon, les Mayas, en tout cas, ont pu faire pas mal de choses. Et notamment, dans le codex de Dresde, qui est le plus complet et le plus joli, vous avez une table des éclipses. Ce symbole-là, mi-noir, mi-blanc, c'est en fait une table des éclipses. C'est le symbole des éclipses. Alors, vous remarquerez les petits points, les petites barres. Ah ben oui, j'ai oublié de vous dire. Les chiffres, ils les écrivent pas comme nous, de gauche à droite. Ils les écrivent de bas en haut. Enfin, de haut en bas. Ben bon, ça ne change rien. Il vous faut pas longtemps, je vous jure, pour lire les codex mayas. C'est vraiment très simple. C'est vraiment, vraiment extrêmement simple. Ici, au milieu, Vous remarquerez, là, vous avez 2 points, là, vous en avez 3, là, vous en avez 4. Bon, le symbole à côté, c'est un symbole de mois. Donc, en gros, c'est 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier. C'est quoi? C'est un intervalle d'alerte. Attention, éclipse. Parmi ces 3 jours-là, il y a une possibilité qu'il y ait une éclipse. Faites la cérémonie associée pour être sûr que vous n'en ayez pas. D'accord? Alors, en dessous, vous avez des intervalles. Alors, ces intervalles, en fait, 177 jours et 148 jours, ce sont les intervalles moyens entre éclipses. Alors, le problème, c'est que les Mayas, ils avaient le zéro, mais ils n'avaient pas la roue, ils n'avaient pas les décimales. Et pourtant, ils arrivaient à être précis. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient? D'abord, ils trichaient. Ils vous disent qu'ils ont rajouté 177 jours pour passer à la colonne suivante. Si vous faites le calcul, des moments où vous dites, « Eh les gars, c'est pas bon, c'est 178. » Oui, de temps en temps, ils ont rajouté un. Parce qu'en moyenne, c'était meilleur. Tout comme l'alternance entre 177 et 148, là aussi, est bien choisie pour qu'en moyenne, ça soit bon. Donc, en moyenne, ils sont très bons. Alors, fini pour le Soleil et la Lune, on va passer aux planètes. Planètes donc visibles à l'œil nu. Séparées en 2 parties, ce qu'on appelle les planètes inférieures et les planètes supérieures. Les planètes inférieures, c'est Mercure et Vénus, qui n'apparaissent que le matin ou le soir. Je ne sais pas si vous avez repéré il y a quelque temps d'ici, au moment où à l'automne, c'était au moment où vous reveniez du boulot, il y avait un machin très brillant dans le ciel. Vous n'avez pas vu ça? Il y a quelque temps, c'était au moment où vous vous leviez. Vous alliez au boulot. C'était Vénus. On la voit très très bien. Comme une étoile du matin et une étoile du soir, il y en a qui n'ont jamais fait les liens, hein, par exemple les Égyptiens, qui étaient très bons en médecine, très bons en architecture, mais en astronomie, c'est pas la peine. Étoile du matin, étoile du soir, ils n'ont jamais fait le lien entre les deux. Ils ne se sont jamais rendu compte que c'était le même objet. Alors, si ces objets nous apparaissent seulement le matin ou seulement le soir, c'est pour une raison très simple, c'est que leur orbite se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Et donc, forcément, vu de la Terre, vous voyez par exemple Vénus, elle se balade sur son orbite, mais elle ne peut pas aller plus loin que là. Elle ne peut pas aller là. D'accord? Donc, elle va toujours rester à un certain angle du Soleil. Elle ne va jamais quitter la proximité du Soleil, simplement parce qu'elle orbite à l'intérieur de l'orbite terrestre. Et là aussi, eh bien, on peut modéliser le cycle de Vénus. Vénus revient tous les 584 jours, à peu près. Et ce cycle-là a été modélisé beaucoup par les Mayas pour une raison bien simple. Regardez ici, ou là aussi d'ailleurs, c'est le dieu qui correspond à Vénus. C'est pas la déesse de la beauté, comme vous l'aurez remarqué, c'est le dieu de la guerre. On l'appelle Kukulkan, et chez les Aztèques, ça devient Quetzalcoatl. C'est pas un dieu sympa. Conclusion, en fonction de ce que fait Vénus, vous faites la guerre à vos voisins. Donc il faut savoir, évidemment, quand Vénus va faire ce truc-là, parce que sinon, vos voisins vont attaquer d'abord. D'où, vous mettez dessus des astronomes, et puis vous faites de jolies tables. Voilà la table du Codex de Dresde. Vous avez ici les colonnes qui correspondent aux 4 périodes, donc visibilité le matin, invisible, visibilité le soir, invisibilité, et on recommence. Hein. Alors vous commencez première page, première ligne. Visible le matin, invisible, visible le soir, invisible, et puis vous continuez deuxième page, hein, première ligne, vous avez 5 pages comme ça, donc 5 cycles de Vénus, puis vous revenez, première page, deuxième ligne. Et vous avez comme ça 13 lignes. Ce qui vous fait 5 pages fois 13 lignes, 65 cycles de Vénus. Un cycle, c'est 584 jours. Hein. Pour arriver à une précision comme ça, les Mayas, ils n'ont pas travaillé 3 jours. Hein, soyons clairs. Alors, il y a même des systèmes de correction. Alors, les systèmes de correction sont un petit peu sujets à débat parce qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Mais le 584 jours, donc il ne travaillait, je vous ai dit, qu'en nombre entier, au bout de 65 cycles, c'est très mauvais. On est franchement décalé. Parce que c'est, en fait, 583,92 et des fafiotes. Donc forcément, il faut essayer de corriger pour cette différence-là. Et donc, il y a des systèmes de correction, et on peut montrer qu'avec ces systèmes-là, au pire, ils ont quelques minutes de précision sur la période de 584 jours. Ce qui n'est pas si mal. Alors, les planètes supérieures. Planètes supérieures, c'est Mars, c'est Jupiter, c'est Saturne, en tout cas dans les visibles à l'œil nu. Ces planètes sont très emmerdantes. Pourquoi? Parce que ces planètes, elles changent de luminosité, elles sont plus brillantes à certains moments qu'à d'autres. Pire que ça, elles font des demi-tours. Ça, c'est très perturbant. Il a fallu des années aux Grecs pour essayer de trouver un modèle avec le petit sphère qui tourne dans tous les sens pour que ça marche. Mais ce qui se passe, c'est tout simple, en fait. Vous avez la Terre, ici, qui tourne autour du Soleil. Vous avez les planètes supérieures, ici, c'est Mars, qui tournent sur... Évidemment, elles ne tournent pas au même moment. Elles ne tournent pas à la même vitesse. Et de temps en temps, ben, la Terre arrive et pouf, elle repasse devant Mars, parce qu'elle va plus vite. Et à ce moment-là, quand elle repasse devant, ben, Mars est prêt. S'il est prêt, il est brillant. Et en plus, il fait demi-tour. Donc les deux phénomènes sont liés. Mais c'est embêtant. C'est très embêtant d'avoir ce truc-là. Et donc, en Mésopotamie, ils ont essayé de trouver, parce qu'au départ, au tout début de l'astronomie mésopotamienne, une planète qui faisait un demi-tour, c'était un message des dieux. Bon, au fil du temps, ils ont essayé de modéliser ça. Alors vous voyez, de nouveau, le système mésopotamien, c'est les petits ronds. Cette fois-ci, ils ne sont pas noirs, ils sont blancs, mais bon. Et les théories modernes, l'ordinateur, mécanique céleste, machin, tout ça, c'est les petites croix. Et ça, ça vous donne la position où la planète, ici, je crois que c'est Mars, fait demi-tour. D'accord ? Et vous remarquerez que les deux, c'est bon. C'est quand même vachement bon. Évidemment, vous imaginez aussi que quand ils sont arrivés à ce niveau-là, ils pouvaient prédire quand les planètes faisaient demi-tour, quand elles allaient être plus brillantes. Ils pouvaient même prédire où dans le ciel elles allaient le faire. Et combien de temps ? Il n'y avait plus le message des dieux. Qu'ont fait les astronomes ? Ils ont pris des astrologues, ils les ont mis en dehors des temples. Pas de bol, c'est là que les astrologues ont inventé l'horoscope individuel et que nous les avons toujours sur le dos depuis. Alors, on a fait Soleil-Lune, on a fait Planète, maintenant les étoiles. Les étoiles sont généralement groupées en constellations. Quelle que soit la civilisation dans le monde, on a groupé les étoiles en constellations pour s'y retrouver. Maintenant, on ne groupe pas toujours les choses de la même façon. Il y a des trucs évidents. Des trucs que, bon, des groupements, vous ne sauriez pas vous tromper. Par exemple, la Grande Ourse ou Orion. Orion, vous allez le retrouver partout. Bah oui, c'est évident, c'est un tel machin, c'est tellement brillant, c'est tellement bon. C'est évident de les mettre ensemble. Maintenant, il y a des autres cas où c'est moins évident, et donc forcément, bah là, ça change un peu, et les façons de grouper vont dépendre d'un cas à l'autre. Mais bon, il y a en plus des étoiles, des groupements. Par exemple, les Pléiades, donc un petit groupe d'étoiles, on appelle ça un amas, toutes nées en même temps, que l'on trouve près du Taureau, et certains disent que dans cette image de Lascaux, hein, vous avez le Taureau, ici, et vous avez des petits points, là, et bien que ces petits points correspondraient aux Pléiades, parce que c'est vrai que la position par rapport au Taureau, enfin, ça ressemble quand même vachement. On n'a pas de preuves, évidemment, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces Pléiades étaient observées partout dans le monde. On a des traces d'observation des Pléiades partout, peut-être pas aussi anciens que Lascaux, mais notamment en Swahili, ça se dit étoile labourage, et en Inca, ça se dit l'entrepôt, activité agricole, parce que les Pléiades pouvaient servir de calendrier agricole. On va voir comment un petit peu plus tard. Alors, chose que nous n'avons pas, ou en tout cas très peu dans l'hémisphère nord, on les voit très mal, c'est des nuages noirs. Dans la Voie lactée, on a en fait des zones sombres. Et les Incas, qui sont dans l'hémisphère sud, où on voit le mieux cette Voie lactée, eh bien, on fait des constellations noires. Alors ici, c'est la Croix du Sud. C'est une photo que j'ai prise au Chili. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le sac à charbon. Oui, ça, c'est le nom qu'on lui a donné, nous, quand on a été là-bas. Hein. Mais au départ, ça s'appelle le tinimou. Le tinimou, c'est un joli petit oiseau. Et d'ailleurs, il y a sa maman qui n'est pas loin. Ils sont ensemble, hein, la maman et le bébé. Et puis, vous avez le guépard. Enfin, il y a plusieurs bestioles comme ça qui sont dans des constellations noires, donc pas faites sur les étoiles, mais sur les nuages noirs. Et un truc aussi assez amusant, c'est la façon de faire des constellations. Généralement, quasiment partout dans le monde, on prend les étoiles brillantes, et on associe les étoiles faibles. Chez les aborigènes, c'est différent. L'important pour eux, c'est des groupements. Une étoile brillante isolée, c'est bien joli, mais elle est toute seule, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent avoir des groupements d'étoiles, même si elles sont plus faibles. L'interprétation ethnographique, c'est que si vous êtes tout seul dans le désert australien, vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez, ça sera difficile de vous en sortir. Par contre, si vous êtes en groupe, peut-être de gens moins malins, mais si vous êtes en groupe, vous sortirez d'affaires beaucoup plus facilement. Et donc, il y a une importance du groupe, en tout cas, qui semble avoir joué sur la définition des constellations. Alors, que font ces étoiles ? Ben, les étoiles, elles se lèvent et elles se couchent. Différence par rapport au Soleil, elle se lève toujours au même endroit, elle se couche toujours au même endroit. Donc quand on définit des directions avec des étoiles, c'est beaucoup plus stable. C'est pas comme le Soleil qui change. Hein. On peut l'utiliser de manière symbolique, comme en Égypte, des vivants qui vivent côté est où le Soleil se lève, et côté ouest, c'est plutôt la patrie des morts, puisque c'est là que le Soleil meurt. Mais bon, on peut l'utiliser véritablement pour repérer les étoiles. Vous avez ici un monument amérindien. Monument amérindien qui ressemble à des tas de cailloux. Si vous reliez les tas de cailloux, vous avez notamment les levées ici. Donc alors, attendez, c'est celui-ci avec celui-là. C'est le lever de Sirius. Celui-ci avec celui-là, c'est le lever de Rigel. Donc deux étoiles quand même très brillantes. C'est en fait un monument qui se trouve dans le Wyoming et qui est assez difficile d'accès, assez haut. Donc c'est pas de nouveau pas un monument spectaculaire hein, comme chez les Mayas. Je vous ai parlé de la Polynésie, hein, où on hésite entre le Soleil et les étoiles. Mais il y a une dernière chose, c'est qu'on peut l'utiliser de manière pratique. Si jamais vous allez en Égypte, je sais, c'est pas le moment, mais bon, si vous avez l'occasion, ou si vous avez eu l'occasion, vous avez peut-être repéré sur les temples ce machin-ci. On le retrouve partout. Il y a Pharaon, et il y a une bonne femme en face avec une étoile sur la tête. C'est la déesse des mathématiques. Et ils ont l'air de tenir quelque chose. Et le texte qui va avec est toujours le même. J'ai saisi le pieu et le manche du maillet, c'est Pharaon hein, qui parle. J'ai pris la corde de mesure en compagnie de la déesse Shechat, c'est-à-dire celle-ci. J'observe le mouvement progressif des étoiles, mon œil est fixé sur Meskhetiou, c'est à grand ours. Le dieu gardien du temps est à mes côtés, le prêtre qui a fait les calculs, pour être sûr que je me gourre pas. En face de son merket, c'est un instrument de mesure. Ensuite, j'ai établi les quatre coins du temple. Donc tout simplement, en utilisant les étoiles, on peut facilement repérer les points cardinaux. Et donc, si vous voulez un monument qui est aligné suivant les points cardinaux, vous pouvez, comme les Égyptiens, utiliser les étoiles. Alors, je vous ai fait l'Est et l'Ouest, le Nord. Le Nord, le Nord, les étoiles tournent autour de la polaire, bien joyeusement. C'est toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes. Et ça tourne, c'est bien gentil, ça se lève pas, ça se couche pas. Elles sont donc quelque part éternelles. Immortelle, importance symbolique dans certaines civilisations, notamment chez les Égyptiens. Mais importance pratique en Chine. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la Terre est le reflet du ciel. Sur Terre, tout tourne autour de l'empereur. Au ciel, tout tourne autour de l'empereur céleste. Et l'empereur céleste, c'est la polaire. Et donc, système de repérage basé sur l'équateur céleste et sur l'axe polaire. C'est-à-dire le même système que nous, aujourd'hui, en tant qu'astronomes, nous utilisons. Nous utilisons un système de repérage basé sur l'équateur céleste et l'axe de la polaire. Les Chinois le font depuis des milliers d'années. Et ils ont fait des cartes. Vous voyez ici un exemple hein, de carte. C'est une carte qui date de 1094. Vous repérez Orion, trois petites étoiles alignées. Le taureau est ici. Cette carte est en projection Mercator. Ce grand géographe belge a été devancé mais de pas mal de siècles, par ces braves petits Chinois qui faisaient ça bien joyeusement au XIe siècle sans problème. Donc on croit avoir inventé des projections comme ça, quoi. C'est pas vraiment le cas. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces étoiles qui tournent autour de la polaire, on les voit bien chez nous. Mais si vous avez été en Égypte, par exemple, vous aurez remarqué que vous aurez eu beaucoup plus de mal à repérer la Grande Ours. Si vous avez été en Afrique centrale, je ne sais pas, le Congo, le Burundi, des choses comme ça, vous aurez peut-être vu que c'est encore plus difficile. Tout simplement parce que, forcément, ça dépend de la latitude. Quand vous êtes au pôle Nord, vous êtes pile dans l'axe de la Terre, toutes les étoiles tournent autour de la polaire, toutes les étoiles sont ce qu'on appelle circumpolaires, donc autour de la polaire. Chez nous, il y en a une partie. Et si vous êtes à l'équateur, il n'y en a plus aucune. Donc, simplement en repérant où se trouve la polaire par rapport à l'horizon, vous avez la latitude. Donc, les étoiles vont servir pour pouvoir voyager très facilement. Petit interro, pour voir si vous êtes toujours avec moi. Où est-ce qu'on est ? À l'équateur, exactement. On est pile sur l'équateur. Je crois que l'image a été prise du Kenya, en fait. Pile sur l'équateur. Cette idée d'utiliser l'astronomie, les étoiles, chez nous, ça a été abondamment utilisé, mais ceux qui l'ont beaucoup utilisé, alors que ça ne paraît pas nécessairement évident au départ, c'est la Polynésie. Polynésie, donc, je la définis, hein, c'est un grand triangle, Hawaï, Nouvelle-Zélande, île de Pâques. Donc l'île de Pâques n'a pas été peuplée depuis l'Amérique du Sud, mais elle a été peuplée depuis, en fait, la Papouasie, qui a peuplé petit à petit les îles, y compris l'île de Pâques. Et dans tout ce triangle-là, on sait qu'il y avait du commerce. Il y a aussi une communauté de langues, il y a beaucoup de choses qui se font de la même façon dans ce triangle polynésien. Or, ce triangle polynésien, c'est beaucoup d'eau et de temps en temps, une petite île. Quand vous êtes sur une île, c'est pas évident de savoir qu'il y en a une plus loin. Gros problème, lorsque les conquérants sont arrivés dans ce coin-là, ils ont un peu liquidé tout le savoir local, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'ils savaient exactement. On a des traces, notamment dans les Samoa, on sait notamment qu'ils utilisaient les étoiles et les courants marins. Et il n'y a pas de mot, en fait, pour désigner le nom d'astronome. Cette fonction-là, c'est le navigateur qui s'en occupe. Et ce qu'on sait, c'est qu'il suffisait de regarder les étoiles. Alors, dans les années 70, il y a eu une espèce de renouveau, si vous voulez, au niveau ethnique. Et donc, les locaux à Hawaï, pas les colons, hein, mais les Hawaïens d'origine, se sont dit, comment ils faisaient? On aimerait bien savoir. Alors, il y en a un qui s'est enfermé dans un planétarium pendant un an. Il a bien réfléchi. Et puis, en sortant, il a pris le bateau et il a fait Hawaï-Tahiti, sans même connaître les courants marins. D'accord? Juste en ayant regardé les étoiles. Ce qui vous montre que ça peut se faire, simplement avec les étoiles. Alors, il y a aussi une chose qui est à noter, c'est qu'en Polynésie, il y a des étoiles brillantes qui passent au zénith, donc juste au-dessus de certaines îles. Par exemple, Sirius pour Tahiti, ou Arcturus pour Hawaï. Et en fait, apparemment, ils avaient une idée où chaque petite île avait son petit dôme avec sa petite étoile. Et donc certains se disent que dans cette idée-là, comme il y avait beaucoup d'étoiles, ils se sont dit qu'il devait y avoir pas mal d'îles, et c'est comme ça qu'ils ont probablement commencé à explorer. Probablement avec des pertes aussi à un certain moment, parce que de temps en temps, ils tombaient sur rien. Au passage, trouvez la polaire, si jamais vous êtes intéressé à retrouver votre latitude ce soir ou demain. Hein. Vous prenez la grande ours, la casserole, là, vous prenez le bord de la casserole, vous prolongez, pouf, vous tombez sur une étoile qui n'est pas spécialement brillante, qui n'a rien de particulier, sauf que c'est la polaire. Mais évidemment, quand je vous dis la polaire, je triche un peu. La polaire, en ce moment. Ben oui, pas de bol, l'axe de rotation de la Terre, il tourne. Et donc la polaire, c'est l'étoile qui se trouve dans l'axe de la Terre. Mais si l'axe tourne, c'est pas toujours la même étoile. Conclusion, lors des civilisations égyptiennes, la polaire s'appelait Touban. C'est une étoile dans le dragon. Ah ben oui, ils n'avaient pas la même polaire que nous. Ce qui veut dire que quand ils faisaient leurs calculs avec Mesquitiou, machin, etc., ils ne travaillaient pas avec la même polaire que nous. Ça marchait aussi, hein. Sauf que, évidemment, les Égyptiens, quand ils avaient une technique qui marchait, ils continuaient à l'utiliser. Sauf que, forcément, comme leur civilisation a duré des milliers d'années, la polaire a dérivé. Et donc, leurs constructions ont parfois dérivé aussi. Et notamment, il y a certaines pyramides qui ont vu leur alignement bouger. On a même des temples à Karnak, qui est en fait la base d'un temple qui est orienté d'une manière, et puis dessus, ils ont reconstruit, ils ont réutilisé la base, ils ont cassé le dessus, ils ont réutilisé la base et ils ont reconstruit, mais c'est pas d'équerre, quoi. C'est vraiment. Il y a un an ou l'autre les deux, mais qui est visible. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ne se sont pas posés de questions. Ils utilisaient le machin, c'était tordu, quoi. Donc c'est un peu particulier, mais bon, ça marche. On a fait le nord, on a fait l'est, on a fait l'ouest, il reste donc le sud. Le sud, eh bien, le sud, c'est le contraire du nord. Les étoiles observables vont changer, tout simplement parce que la Terre tourne autour du Soleil. Et prenons par exemple juillet, vous pouvez pas voir ces étoiles-là vu que le Soleil se trouve dedans. Par contre, vous pouvez bien voir celles-ci. Et 6 mois plus tard, en janvier, celles-là vous les voyez bien. Ah ben non, il y a le Soleil dedans. Pas de bol. Par contre, vous voyez bien celles-là. Donc il y a 6 mois de différence entre celles que vous pouvez bien voir et le Soleil. Et ça peut vous servir de calendrier. De nouveau, les Égyptiens, quand ils pratiquent, ça leur posait pas de problème. Ils ont fait des horloges sidérales. d'abord en utilisant les étoiles qui se levaient, puis finalement en utilisant les étoiles qui passaient au sud, et vous remarquerez tout de suite comment ça marche. Vous avez bien gentiment un petit assistant que vous faites agenouiller devant vous, vous êtes assis sur de jolis coussins évidemment, puisque vous êtes le chef, et vous regardez les étoiles qui passent derrière, vous êtes aligné sur l'axe nord-sud, hein, vous regardez les étoiles qui sont derrière, et quand vous avez la bonne carte derrière, vous pouvez dire, ok, on est à tel moment. D'accord ? Telle heure, tel moment de l'année. Ce genre de choses, vous pouvez le voir. Si vous avez l'occasion d'aller dans la vallée des rois, vallée des reines, les tombes sont très jolies. Vous allez avoir tendance à regarder à gauche ou à droite. Pensez à regarder au-dessus. Parce que ces machins-là se trouvent au-dessus. Donc, si jamais vous avez l'occasion dans le futur, ne regardez pas seulement les côtés, regardez au-dessus aussi. Vous allez voir, il y a des trucs intéressants dans certains tombes. Alors, vu donc de la Terre, vous avez l'impression que le Soleil se balade parmi les étoiles. Bon, on le sait bien, c'est pas le Soleil qui se balade, hein, c'est nous qui nous tournons autour, mais on a l'impression que le Soleil se balade sur une ligne qu'on appelle l'écliptique, le chemin des éclipses, et les constellations qui se trouvent dessus ont reçu un nom particulier, c'est les constellations du Zodiaque. Les constellations du Zodiaque, il y en a 13. Ça n'a rien à voir avec les signes du zodiaque, qui sont au nombre de 12 et qui sont un découpage de cette écliptique. Les constellations sont parfois très grandes et très petites. Les signes du zodiaque ont tous 30 degrés. C'est un système de repérage très pratique, inventé par les Mésopotamiens. Puisqu'ils devaient faire des mesures, ils devaient avoir un système de repérage. Leur système de repérage n'était pas basé, comme les Chinois, sur le même système que nous aujourd'hui. C'est un système qui utilise l'endroit, je veux dire, où le soleil se trouve par rapport aux étoiles. Mais bon, j'ai triché quand j'ai dit que je parlais de la polaire, j'ai aussi triché quand j'ai parlé du jour. Oui, parce que le jour, je veux dire, c'est évident, le jour. Ah ben oui, mais non, il faut préciser. Ben oui, parce que figurez-vous que la Terre, elle tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du Soleil. Elle fait les deux. Du coup, il y a deux jours. Il y a le jour sidéral, qui est le temps pour que, depuis la Terre, on revoie une étoile dans une direction donnée. Donc voilà la Terre, elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, pour retrouver l'étoile qui est là-bas, la même direction, il faut un jour sidéral, 23h56. Ouais, mais pour retrouver le Soleil, à midi, ah ben, il va falloir tourner un petit peu plus. Ben oui, parce que, vous voyez, on a tourné comme ça, ah ben oui, on est bien dans la bonne direction, mais pour l'étoile, mais pas pour le soleil. Il faut tourner encore un petit peu pour, pouf, retrouver le soleil, et ça prend 4 minutes de plus. Pour retrouver le soleil, c'est 24 heures. Pour retrouver les étoiles, c'est 23h56. 4 minutes de différence. Les étoiles se lèvent tous les jours 4 minutes plus tôt. Il y a donc des moments où elles se lèvent en même temps que le soleil. Pas de bol, si elles se lèvent en même temps que le soleil, on ne les voit pas. Et puis, petit à petit, elles vont se décaler, puisque tous les jours, elles vont se lever 4 minutes plus tôt, 4 minutes plus tôt, 4 minutes plus tôt, 4 minutes plus tôt. À un moment, on va pouvoir les voir juste un tout petit peu avant que le soleil se lève. La première fois, on arrive encore de nouveau à les repérer. On appelle ça le lever héliaque. Bon, on a décidé de l'appeler comme ça. Hein. Bon, on peut faire la même chose avec le coucher. Et il y a un truc qui est amusant, c'est qu'on utilisait beaucoup, les anciens utilisaient beaucoup ce lever héliaque. L'étoile entrepôt, l'étoile labourage pour les Pléiades, c'est ça qui repérait en fait. Les levers héliaques et les couchers héliaques des Pléiades. Et on peut le faire aussi en Égypte, parce que figurez-vous qu'ils avaient remarqué que le lever héliaque de Sirius, donc la réapparition de Sirius, correspondait à la crue du Nil. Et donc ils avaient comme ça une façon de regarder. Donc s'il y a bien une chose qu'ils ont regardée, c'est s'ils arrivaient à revoir Sirius. Évidemment, c'était la fin de la période de sécheresse, donc c'était très important pour eux. Ça marchait pas toujours. Mais bon. Et je vais terminer simplement en vous parlant des observatoires anciens. Les observatoires d'anciens, il faut savoir que, bon, généralement, c'était un gars tout seul qui se baladait un peu dans son coin, mais il y a des endroits où c'était organisé. J'ai parlé des Mésopotamiens, mais c'est également valable en Chine, où vous aviez, 2000 ans avant notre ère, des observatoires d'État. Faisait là aussi de l'astrologie d'État, hein, séparé astronome, astrologue, pareil qu'en Mésopotamie, mais 2000 ans avant notre ère, il y avait déjà des observatoires. Mieux que ça, au moment du premier empereur, le premier empereur qui s'appelait Qin, hein, donc, dont le nom a donné la Chine, c'est 220 avant notre ère, eh bien, l'observatoire principal employait 300 personnes. à peu près l'équivalent de ce qui est employé au Chili par les Européens pour le, les télescopes qui se trouvent là-bas. Vous avez une idée, c'est pas, enfin 300 personnes, c'est pas un petit observatoire, hein, c'est un bel observatoire, et on parle ici de choses il y a 2200 ans quand même. Hein. Ça a continué, ils ont fait beaucoup d'observations, y compris avec des montures équatoriales, donc des façons de tenir les instruments que chez nous on a eu bien après, 17e, 18e, eux ils l'avaient déjà au 13e siècle. Ils ont fait aussi des entraînements mécaniques pour faire des sphères célestes de démonstration, des choses comme ça, enfin bref, des trucs de fou, des années avant que nous on ait l'équivalent mécanique. Donc en Chine c'était extrêmement bien organisé. Chez les Mayas, c'était, disons, un petit peu plus basique. Alors, vous avez ici un extrait d'un, non pas d'un extrait Maya, mais d'un extrait Mixtèque, mais on pense que c'était à peu près pareil. Les espèces de petits machins, les escargots, enfin, ça ressemble à des escargots. En fait, c'est pas des escargots, c'est des étoiles. C'est leur dessin pour faire une étoile. Et vous avez l'astronome, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à travers deux bâtons croisés. Pour repérer une direction, ça suffit. D'accord? Donc, l'attirail des Mayas était beaucoup plus simple que ce qu'ont fait les Chinois. Et si vous avez l'occasion à Chichen Itza, ne restez pas juste à côté du Castillo, le gros machin qui a été construit beaucoup plus récemment. Allez voir la partie Maya, la partie Puuc. Dans la partie Maya, vous repérez un truc qui va ressembler très fort à un observatoire. C'est un machin rond avec un petit dôme comme ça. Ça ressemble. Eh ben, c'est un observatoire. C'est comique à dire, mais bon, on sait plus aller dedans, par contre. Mais déjà de l'extérieur, il est très joli. En fait, il y a là des fenêtres dont on a montré là aussi qu'elles étaient alignées suivant des phénomènes célestes et Soleil, Vénus et aussi étoiles. Du coup, si on a des observations, on peut les utiliser aujourd'hui. Alors, on a quoi ? Ben, on a les tablettes mésopotamiennes et on a les écrits chinois qui sont vraiment les trucs principaux. On a quelques chroniques médiévales, chrétiennes, mais aussi arabo-musulmanes. Et les Mayas, on n'a pas de traces, à part les quatre bouquins qui donnent les modèles, ils ne donnent pas les observations. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà un os chinois, avec l'écriture chinoise ancienne, mais bon, 22 siècles avant notre ère, hein. Donc ça fait quand même 4000 ans d'archives, c'est pas mal. Pour les tablettes mésopotamiennes, on en a moins, mais les plus anciennes sont quand même 17e avant notre ère, ce qui n'est pas mal non plus. Pour vous donner une idée, voici la description de la grande comète de 837 par les Chinois. Je ne vais pas le lire, hein, si vous voulez je vous le laisse. Hein. Ça explique où dans le ciel elle est apparue, donc dans quelle constellation, à quelle position dans la constellation, à quel moment de l'année, à quelle heure. De quelle forme était la comète? Quel a été son mouvement dans les jours qui ont suivi? Bref, c'est très 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 détaillé. Même comète, chronique médiévale. Celle-là, je vais vous la lire. En pleine fête pascale, une comète apparue dans la Vierge qui parcourut en 25 jours le Lion, le Cancer, les Gémeaux. Les constellations, les signes, débrouillez-vous avec ça. Hein. Vous comprendrez pourquoi les Chinois sont beaucoup plus utiles que les chroniques chrétiennes. Et donc ça permet par exemple de calculer l'orbite de la comète de Halley, parce que la comète de 837 c'était celle-là. On a tous les passages en Chine, ce qui permet de vérifier notre mécanique céleste et de montrer que la comète de Halley revient, non pas seulement tous les 76 ans, mais un intervalle entre 76 et 79 ans, et en 837 elle a quasiment frôlé la Terre, ce qui a permis une apparition un peu spectaculaire. Avec ça on peut faire plein de choses, on peut calculer la durée du jour. Oui, parce que je suis désolée, je vous ai encore menti, il n'y a pas que deux jours. Ça varie avec le temps. La rotation de la Terre ralentit, et ça, on peut le voir en comparant avec, par exemple, les prédictions les observations d'éclipses des Mésopotamiens. Ben, si la Terre tourne au même niveau, vous pouvez facilement prédire où l'éclipse va se produire, et puis, pas de bol, elle était normalement, c'est là qu'elle est totale, et ben, à Babylone, elle était totale. Il y a un petit problème dans le calcul. Ben, le calcul, s'il suppose que le jour ne change pas, que la rotation de la Terre ne change pas, ça ne marche pas. Donc la Terre ralentit petit à petit. C'est grâce à ça qu'on peut le prouver, le mesurer. On a aussi toute une bibliothèque de taches solaires, de novas, de supernovas. Celle-ci, c'est la nébuleuse du crabe. L'explosion a été observée en 1054. Celle-ci, supernova, qui a explosé en 1006. Donc on a comme ça tout un ensemble de bibliothèques grâce principalement aux Chinois. Et donc je termine en espérant vous avoir convaincu que l'astronomie est une science très ancienne, mais qui a été faite vraiment partout, avec des approches très différentes, mais qui ont toutes leur intérêt, avec, évidemment, ça dépend ce que vous voulez faire, hein, ce à quoi vous vous intéressez, mais partout, il y a des choses intéressantes. Et ben voilà, j'espère que si vous avez des questions, je saurai y répondre. Merci. Alors, les premiers supports, ça dépend de qui. Effectivement, chez nous, on penche pour des supports dans des grottes, hein, en espérant qu'on ait réussi à déchiffrer ce qu'il y avait à Lascaux, ce qui n'est pas sûr, évidemment. Sinon, on a des gravures, par exemple, sur des os d'animaux. C'est le cas de l'os de la Brie Blanchard, c'est le cas des os oracles, donc les premiers restes chinois qu'on a. Et puis vous avez les tablettes, hein, donc là sur de l'argile, sur de la poterie, parfois sur des dessins ou des sculptures sur des temples, ça peut être utile aussi. C'est les choses les plus anciennes. Alors des représentations d'astronomie, oui, des représentations d'étoiles, des choses comme ça, vous avez des petits dessins d'étoiles un peu partout. Maintenant, est-ce que tous ces dessins veulent dire quelque chose? Pas nécessairement, c'est parfois juste un décor. Et donc, il faut trier, et c'est pas toujours simple. Par exemple, il y a un dessin qu'on avait trouvé dans le Chaco Canyon, justement, donc des Anasazis, un dessin rupestre, où on était, enfin en tout cas beaucoup étaient persuadés qu'il s'agissait justement de la supernova de 1054, donc de l'explosion de 1054, et il s'est avéré, on a refait des calculs, des datations plus précises, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, il s'est avéré qu'en fait c'est pas du tout lié à 1054, c'est beaucoup plus récent. Donc voilà, c'est pas simple, nécessairement. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à faire, surtout quand il n'y a pas d'écrit au sens tablette, papyrus ou tout ce que vous voulez, là ça commence à devenir difficile. Mais on essaie. Mais bon, dans ce cas-là, il faut rester prudent.
Moi, j'ai une question sur la motivation de ces peuples primitifs, sur le fait que ça soit tellement pointu, en fait. Parce que finalement, pour faire des cultures ou pour faire la guerre, ou, voilà, ils n'ont peut-être pas forcément besoin de pousser la réflexion jusqu'à là. Donc, à votre avis, pourquoi, notamment les Chinois, par exemple, ils sont allés jusqu'à mesurer de manière si précise?
Alors, les raisons d'aller dans la précision, c'est justement les raisons que j'ai exposées au départ. Il y a des raisons agricoles. Là, on n'a pas besoin d'une précision extrême, hein, mais bon. Maintenant, il y a derrière aussi une volonté plutôt liée aux cérémonies. Alors, à partir du moment où vous entrez dans des trucs divins, où vous êtes censé... Enfin, je veux dire, la Noël, vous le fêtez le 25 décembre et pas le 20 ou le 30. Hein, c'est le jour précis. Ben voilà, c'est le jour précis. Donc là, il faut être plus précis. Alors quand en plus, vous avez une volonté astrologique qui est derrière, donc d'interprétation. Alors, les façons d'interpréter chez les Mésopotamiens et chez les Chinois, c'est très différent. Les Mésopotamiens se concentrent sur les planètes, les Chinois sur des comètes et des novas, des choses comme ça. Mais dans un côté comme dans l'autre, on est en train d'essayer de prédire l'avenir de l'État. Pas à long terme, au jour le jour. Est-ce qu'on va se faire envahir aujourd'hui? Est-ce que le grand vizir ou le premier ministre va me trahir? Hein? Donc c'est vraiment du jour le jour. Et là, il faut être précis. Et donc à partir de là, à partir du moment où ils sont partis dans cette idée-là, effectivement, ils veulent être précis. Bon, alors on peut se dire aussi quand même qu'il y a une grande partie de ces gens-là qui, à un moment, ont eu tout simplement un intérêt scientifique. On se rend compte, c'est intéressant ce que je suis en train de faire. Et j'ai envie d'être précis. Donc je crois que toutes ces raisons ont coexisté, à des degrés divers, selon les civilisations et selon les individus, mais on peut retrouver l'ensemble, à mon avis. De nouveau, ça dépend du pays. Il y a des endroits où il y avait des véritables écoles. Hein. En Polynésie, il y avait un écolage pour le navigateur, hein, suivre, apprendre les courants, apprendre les étoiles, etc. En Chine, c'était encore pire, parce que l'astronomie, c'était le ministère le plus important. Alors, devenir fonctionnaire au ministère de l'astronomie, vous savez, oh là là, ça, c'était le top du top. Donc, il y avait véritablement une école à suivre qui était la plus prestigieuse. Donc, c'était vraiment les meilleurs élèves, etc., qui y allaient. Donc, ça dépend de l'endroit. Donc il y a des endroits où c'était bien organisé, il y a des endroits où c'était beaucoup moins organisé. Si vous prenez, par exemple, le monde arabo-musulman au Moyen-Âge, il y a des endroits où c'est pas organisé du tout. C'est plutôt le gars qui s'occupe de la mosquée, qui est censé s'occuper aussi du calendrier, des appels aux prières, etc., qui sont liés à l'astronomie, hein, ou qui se dit, bon, finalement, moi, j'ai plein de choses qui m'intéressent aussi, je vais faire ça en plus. Donc là, il n'y a pas vraiment d'organisation derrière. Donc il y a des endroits où c'est bien organisé, des endroits où c'est beaucoup moins. Donc globalement, disons qu'il y avait quand même un minimum d'écolage, même si l'écolage était chez les prêtres, quoi, chez les Mayas par exemple, hein, chez les prêtres qui s'occupaient de ça. Bah, certains étaient certainement plus doués que d'autres, mais bon, ils avaient au moins les bases, quoi, dans leur cursus. Mais voilà, maintenant on n'a pas nécessairement tous les détails. Ça, c'est le problème aussi. On a des détails que, par exemple, pour les Chinois, on a beaucoup de détails parce que tout est écrit et, hein, sur 4000 ans, on a plein de trucs. Donc là, ça va. On a des détails. Ailleurs, en Polynésie, on sait vaguement plus ou moins ce qui se passait, mais on a beaucoup perdu. Il y avait une question là-bas.
Est-ce qu'on avait conscience que la Terre était ronde ?
Est-ce qu'on avait conscience que la Terre était ronde ? Alors, ça dépend de nouveau où vous vous mettez, où vous vous placez. Chez les Chinois, il y avait certains modèles avaient une courbure, effectivement. Bon, il faut dire que la Chine, c'est assez grand. Donc, quand vous vous baladez entre le nord et le sud de la Chine, vous voyez qu'effectivement, vous ne voyez pas le même ciel. Donc, forcément, il doit y avoir une certaine courbure de la Terre pour pouvoir voir des endroits différents. Maintenant, il y a des endroits où c'est... Vous prenez les Mayas, c'est plat. C'est un truc carré, hein, tranquille, bien plat. Mais il n'y a pas nécessairement de nécessité. Vous prenez les Mésopotamiens, il n'y a pas de nécessité que ça soit rond ou plat ou n'importe quoi, vu qu'ils ne raisonnaient pas en termes géométriques. Et ce raisonnement géométrique, chez nous, il vient des Grecs. On a une tendance à penser géométrique qui nous vient naturellement parce qu'on a été éduqués comme ça, et c'est un écolage qui vient de très loin, il vient de là. Et cette géométrie prépondérante, chez nous, c'est inné quasiment, hein, elle est vraiment dans notre ADN, mais c'est pas valable dans les autres civilisations. Donc il faut faire attention, ça c'est quelque chose de manière générale auquel il faut faire attention, de ne pas projeter nos connaissances et notre façon de raisonner actuelle avec ce que nous on sait dans d'autres civilisations qui ont des façons de penser totalement différentes. Donc il y a des endroits où cette question-là ne se pose pas. Parce que ça n'a pas de sens, je vais dire, dans leur système d'idées, je vais dire.
Oui, c'est dans la suite de la question précédente. Vous aviez dit que pour l'observation de la Lune, il fallait à peu près 19 ans. Donc, ce sont des choses qui, les savoirs s'établissaient sur des générations. Mm-hmm. Vous nous avez montré Lascaux, donc il y a 30 000 ans. Et on voit bien dans les représentations de Lascaux qu'on a une civilisation aboutie, oui. Parfaite. On sait par ailleurs que les gens de la grotte Chauvet-Pont d'Arc avaient probablement des relations avec des gens qui se trouvaient dans le Jura Souabe. Donc ça fait quand même une belle distance aussi, qui devait être parcourue sur des générations aussi. Donc pour reprendre la question de tout à l'heure, on peut imaginer qu'ils avaient aussi une perception de la rotondité de la Terre éventuellement.
Le problème avec les civilisations néolithiques, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'écrit. Et donc, quand il n'y a pas d'écrit comme ça, on est obligé de s'occuper des monuments. Et donc, on peut dire à Stonehenge, par exemple, qu'il y a des pierres qui viennent même d'au-delà de la mer d'Irlande. Donc, que forcément, il devait y avoir du commerce avec l'Irlande à ce moment-là pour récupérer les pierres. Hein, ils ont pas... Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui... Enfin oui, vous avez la théorie alien avec les gentils petits extraterrestres qui découpent les blocs et qui les amènent. Mais bon, si on prend un truc un peu plus sensé, où vous devez aller chercher le truc, il y avait des échanges. Le problème, c'est que on n'a pas laissé, tout comme la transmission des positions de la Lune et tout ça, ils n'ont pas laissé d'écrits, de traces. On a le monument fini, on n'a pas les errements pour arriver au monument. Donc on ne sait pas. Alors on peut essayer de reconstituer, comme on essaie de reconstituer, par exemple, la façon dont ils mettaient les pierres debout, hein, et les déplaçaient. On essaie de reconstituer, mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de films, d'écrits, de descriptions. Donc on fait ce qu'on peut. Mais parfois, c'est difficile. Et donc il y a des choses qu'on essaie de reconstituer, mais là, on est un petit peu perdu. Oui, probablement qu'ils ont pu remarquer certaines choses. Est-ce qu'ils les ont interprétées ? Pas nécessairement. Prenons les Égyptiens. Ils n'ont pas interprété, bon, entre Alexandrie et Assouan, il y a quand même pas mal de distance, ils n'ont pas interprété en termes de rotondité de la Terre. Donc ça ne veut pas dire, parce que vous voyez quelque chose dans le ciel, que vous allez nécessairement l'interpréter de cette manière-là. Et bon, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Et ça, il faut aussi l'accepter. Il y a des choses, on n'aura jamais le mot définitif parce qu'il manque de sources. Tant qu'on n'a pas inventé la machine à remonter le temps, on ne pourra pas les voir. Mais la tradition orale, ça, il faut quand même aussi s'en rendre compte parce qu'on vit dans une civilisation où l'écrit a beaucoup d'importance. La civilisation orale, la transmission orale, ça fonctionnait bien. On apprenait plein de choses. Mais, bon, voilà, on a perdu, nous, cette habitude-là. Mais ça existait. Et ça permettait de transmettre ce genre d'informations. Comment, est-ce que c'était ça? Est-ce qu'ils avaient un autre moyen? On n'en sait rien, mais en tout cas, on peut le supposer.
Est-ce que vous pouvez nous parler des Dogons? Avec Sirius 1 et Sirius 2.
Ah, les Dogons. Ah oui, ça, c'est une histoire très comique. C'est une belle preuve que les ethnologues font parfois n'importe quoi. Puisque vous avez ici des ethnologues français, désolé, qui ont débarqué chez les Dogons, et les Dogons leur ont dit que Sirius était une étoile double. Or, on venait de découvrir que Sirius, l'étoile qu'on connaissait, avait effectivement un compagnon qui était invisible à l'œil nu, mais qu'on pouvait voir des manières un petit peu plus compliquées, mais bon. Et donc, ils étaient extrêmement... ils trouvaient ça extraordinaire, qu'ils connaissaient, qu'ils savaient que Sirius était double et tout ça. Bon, alors, ils ont fait des livres retentissants, tout le bazar. Puis, il y a quand même des gars qui ont été analysés un petit peu plus les choses sur place et qui ont notamment discuté avec les Dogons eux-mêmes, mais de manière différente des ethnologues français. C'est-à-dire qu'en gros, ils les ont laissés causer. Et c'est là qu'ils ont appris que chez les Dogons, toutes les étoiles étaient doubles, parce qu'il y avait un principe de gémellité qui était général chez eux, et donc tout était double. Mais les Dogons avaient remarqué que quand ils avaient dit que Sirius était double, Sirius est quand même l'étoile la plus brillante du ciel, donc probablement qu'ils avaient commencé par celle-là, les ethnologues avaient été tout fous, et tout contents, et tout bazar, donc ils ont continué. Et ils l'ont dit clairement, c'est pas qu'ils ont vraiment trompé les ethnologues, pas complètement, mais disons que si les ethnologues étaient contents avec leurs réponses, c'était très bien, et donc ils abondaient dans ce sens-là. Et les ethnologues, ils ont rien vu, c'est vraiment rien vu du tout. Et alors, autre chose en plus, c'est qu'on a su aussi que quelques années avant que les ethnologues français n'arrivent sur place, il y avait un prêtre qui était arrivé. Alors les prêtres, surtout les prêtres jésuites, on les envoyait comme ça à gauche et à droite. Et par exemple, nous, on a eu le prêtre jésuite Verbis qui est parti. Donc c'était un gars, on va dire flamand, même si à l'époque c'était pas vraiment la Flandre, mais bon, qui est parti en Chine et on l'a choisi parce qu'il était bon en astronomie. On s'était dit que ça marcherait pour évangéliser la Chine. Ça va marcher, mais enfin bon. Ils l'ont quand même recruté comme astronome en Chine. Hein. Ça, à ce niveau-là, ça a bien marché. Et alors, le prêtre ici qui est arrivé chez les Dogons s'est rendu compte que la partie astronomique avait beaucoup d'importance dans leur mythe. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité pour raconter que, vous savez, les Occidentaux connaissent beaucoup de choses sur l'astronomie, et alors ils en ont rajouté. Et donc, parmi les dernières découvertes dont le prêtre était au courant, il y avait la découverte du compagnon de Sirius. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font que cette histoire avec les Dogons... C'est pas, il n'y avait pas de préscience de ce qu'on connaît aujourd'hui sur Sirius. C'est un ensemble de trucs et ça a été bien démonté, on le sait maintenant parfaitement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas en Afrique des savoirs astronomiques. Je l'ai montré à différents moments. On a peu de traces, malheureusement, mais on a quand même quelques exemples qu'il y avait un savoir astronomique en Afrique. Pur, je veux dire, local.
Si. Oui, vous avez dit qu'en termes d'astronomes, les Arabes n'ont pas été très, très brillants dans l'histoire de l'astronomie. Comment se fait-il que quand on étudie le ciel aujourd'hui, bon nombre d'étoiles portent des noms d'Arabes?
Mais justement, c'est à cause de ça. C'est pendant le Moyen-Âge, en fait, les arabo-musulmans ont beaucoup travaillé sur l'astronomie. Et donc, on notamment, par exemple, au tout début de la civilisation islamique, traduit tous les classiques grecs en utilisant des prêtres chrétiens, nestoriens, qui, en fait, vivaient à la limite entre le monde chrétien et le monde arabo-musulman, et ils ont été foutus dehors parce qu'ils étaient hérétiques, ils n'étaient pas catholiques purs, quoi. Ils ont été repoussés jusqu'à se retrouver parmi les trucs arabes, et puis les arabes, et ils avaient emporté leur bibliothèque avec eux qui contenait tous les bouquins grecs principaux, et donc les arabo-musulmans les ont employés comme traducteurs. Ils ont comme ça traduit tous les classiques grecs, ils les ont, répandu à travers tout le monde arabo-musulman, donc de l'Andalousie jusqu'à l'Inde, finalement. Et alors, il a commencé à y avoir des travaux pour essayer d'aller plus loin, d'aller plus loin dans les paramètres mesurés, d'aller plus loin dans les modèles, en corrigeant des trucs qui leur paraissaient un petit peu bizarres. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et beaucoup de travail de repérage aussi. Donc, les noms de constellations, bon, initialement, c'est mésopotamien, mais on les connaît sous leur nom grec, souvent, mais les noms d'étoiles et des noms techniques. Le nom du point au-dessus de nos têtes, c'est zénith. Le nom en dessous, c'est nadir. C'est des noms arabes. Donc, beaucoup de termes techniques en astronomie, beaucoup de noms d'étoiles viennent des Arabes, tout simplement parce que c'est eux qui ont travaillé à ce moment-là. Et donc, c'est resté. Je veux dire, c'est simplement l'héritage, quoi. Hein. Bon, on reprend pas de zéro, quoi. Hein. On bâtit sur ce qu'il y a avant. Donc, oui, c'est resté. Beaucoup de choses sont restées. Un truc qui est resté aussi, les Mésopotamiens qui découpent, eux, ils ne travaillaient pas en base 10 ni en base 20, ils travaillaient en base 60. 60 fois 60, ça fait 360. Hein? Non, pardon. 6 fois 60, ça fait 360. Les 360 degrés qu'on utilise, ils nous viennent des Mésopotamiens. Donc là aussi, là, c'est un truc encore plus ancien qui est passé par les Grecs, qui est passé par les Arabes, qui est fini par arriver chez nous, quoi. Mais c'est resté. Donc il y a des choses comme ça qui sont très anciennes et qu'on a gardées.
Moi, j'ai une question sur juste l'origine de la semaine. Parce que je comprends bien le jour, je comprends bien le mois, je comprends bien l'année, mais la semaine, ça vient d'où ?
Ça, c'est beaucoup plus tordu. Parce que les semaines chez les Égyptiens et chez les Mayas faisaient 10 jours. Chez les Mayas, vous aviez même plusieurs types de semaines, il y en a même à 20 jours, enfin, il y en a à 13, il y en a à 20, c'est assez tordu, le calendrier Maya. Les calendriers Mayas. Alors, le problème de la semaine, ça, c'est le problème du 7, symbolique, beaucoup utilisé. Alors, j'avoue ne pas savoir à quand ça remonte. Parce que là, de nouveau, symbolique de 7, on peut chipoter les planètes au sens hein, antique. Vous avez Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, plus le Soleil et la Lune, ça fait 7. Il y a d'autres trucs comme ça où on retrouve le 7. Hein, bon, et alors bon, forcément, c'est toujours le problème. Le 7 a eu une importance particulière en tant que chiffre, en tant que numérologie. Et donc, bon, la semaine est née de ça. Mais il existe d'autres semaines ailleurs. Je vous dis, chez les Égyptiens, chez les Mayas, c'était pas les mêmes semaines.